franceinter.fr.
Prochain rendez-vous avec l'information dans une heure, et c'est éclectique.
Elle y a mis tout son cœur. Elle s'appelle Thérèse Claire et on a simplement envie de dire Thérèse. Thérèse Claire est l'une des personnes que l'on voit dans un beau film qui s'intitule « Les Invisibles » de Sébastien Lifshitz et qui est édité en DVD cette semaine. « Les Invisibles », c'est le portrait d'hommes et de femmes qui ont commencé à vivre leur homosexualité dans les années 50. Et Thérèse, filmée dans son petit appart de Montreuil, y parle de ses amours avec Gudrun ou avec une certaine Emmanuelle.
Ça a été une passion, Emmanuelle, tu vois. J'ai pensé que tout était possible d'un coup, que... Mais j'avoue que après elle, j'ai eu un moment difficile, tu vois. À nouveau, ne plus avoir de vis-à-vis. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai tiré un trait dessus. Mais un trait en poitillé. Je suis peut-être encore apte. Des fois, dans le métro, je vois des vieux ou des vieilles qui me plairaient bien. Puis je me dis, ben, ouais, jusqu'où ?
Thérèse dit les vieux, et pas les personnes âgées ou les seniors. Appeler un chat, c'est son truc, et 86, c'est son âge. Thérèse vient d'inaugurer la maison des Baba Yaga, un lieu pour les vieilles, qu'elle définit comme suit. Nous, on veut pas une maison de retraite, on veut pas de bonnes femmes qui nous emmerdent pour faire la toilette à l'heure et les repas à l'heure. La maison des Baba Yaga est un endroit autogéré, au cœur de Montreuil, la ville de Thérèse. Elle était pieds nus, en haut des escaliers de son immeuble, elle a lancé « Vous êtes la bienvenue !» Et nous sommes entrés.
Hop là. La radio. Voilà.
La photo en noir et blanc d'une vieille femme anonyme au-dessus de la porte d'entrée, ses traits, ses rides, qui lui font comme le plan d'une ville. Et puis Thérèse, dans son canapé, qui parle un peu avec les mains, et qui est tatoué au cœur du poignet.
Ah oui, c'est le signe des femmes, c'est le signe de Vénus. Donc c'est mes petites filles qui m'ont dit, mais enfin, écoute Thérèse, tu es une féministe, tu crois à l'avènement des femmes, à la libération des femmes, il faut te faire tatouer. Oh, mes petites filles, on n'est pas compte, à mon âge, et puis quand même, tatouer, c'est les voyous qui se font tatouer. Thérèse, mon Dieu, écoute, sois un peu moderne. Alors elles m'ont traîné chez le tatoueur. J'avoue que j'ai bien aimé. Alors je mourrais comme ça. Voilà, bien la canaille, et bien j'en suis.
Vous êtes autodidacte, vous, Thérèse?
Ah, complètement. Complètement. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Pas grand-chose. Je sais lire. J'écris quasiment sans faute d'orthographe. Du coup, je pense, j'essaye. Mais j'ai eu le bonheur de sortir de l'école à 15 ans, 16 ans. Donc, aux grandes dames de mes parents qui m'auraient payé toutes les études que j'aurais voulu, mais je m'ennuyais prodigieusement. Moi, vous comprenez, je regardais les hirondelles passer et les professeurs me les faisaient compter. C'était le langage, aussi utile l'un que l'autre, mais je pense que regarder passer les hirondelles dans la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utile. Ça m'a toujours été beaucoup plus utile. C'est pour ça que je ne sais pas compter, d'ailleurs.
Et après, vous êtes donc fait...
Il y a une deuxième université, ça on n'y pense pas beaucoup, mais moi j'ai commencé à militer. Nous étions en pleine guerre d'Indochine, on était en 50-52, Dien Bien Phu c'est 52. J'ai commencé à m'inscrire au mouvement de la paix qui existe encore, qui est un petit mouvement crypto-communiste, enfin qui était crypto-communiste, et qui vous apprenait les grandes choses sur le colonialisme, effectivement, qui se sont révélées vraies. Donc, c'est une seconde université, militer, parce que vous êtes d'abord en collectif, ça, en mourant sur ma tombe, j'ai envie, je donne mon corps à la science et je serai enterré en fosse commune, je l'espère, donc je serai en collectif encore. Mais la vie collective, c'est ce qui vous rend intelligent. Le mouvement des femmes, tant qu'on était à pleurnicher dans son coin, on souffrait toutes du même mal, le patriarcat. Une fois qu'on s'est dit, on a commencé à comprendre à travers la vision collective des choses. D'un seul coup, on a compris que la misère était collective, elle était donc politique. Donc, le petit mouvement de la paix m'a fait connaître des gens remarquables, parce que souvent, je rencontrais des intellectuels de gauche, ça vous fait lire. Mais au lieu de lire des choses Insipide, est-ce bien nécessaire? J'ai passé des heures à apprendre à mes enfants la dentition de la taupe. Vous voyez, est-ce bien nécessaire pour l'évolution du monde? Que la taupe, elle évolue à travers sa dentition. Ça, je suis sûr que c'était très utile. Mais est-ce bien nécessaire de l'apprendre à mes enfants? Il faut apprendre aux enfants la subversion. C'est la subversion qui fait que l'humanité change, et c'est grâce à ceux qui débordent. Vous savez, les grands changeurs de l'histoire, ça a été des gens qui étaient un peu, même pas hors normes, mais des gens qui ne voulaient plus de l'injustice. Et c'était des subversifs et par conséquent des marginaux. Et ces marginaux-là, ils avaient souvent le sens du sacré. Ça m'a frappé.
Mais pour vous, d'être en collectif et de militer comme ça, c'était donc comme une université?
Absolument.
Et de se faire comme ça une culture théorique au contact des autres, la première fois que vous êtes descendu dans la rue, c'était quand?
Je me souviens beaucoup, beaucoup des premières grandes manifs pour la loi sur l'avortement. On était toutes comme des folles pour réclamer la loi Veil. Et il y avait toutes des vieilles au bord du trottoir qui nous disaient « Allez-y les filles, allez-y! Moi j'ai avorté 6 fois, allez-y les filles !» Et il y avait un bonheur, une joie, une insolence. Il fallait gagner cette loi qui nous avait quand même crucifiés pour beaucoup d'entre nous. C'était là quand même l'avortement clandestin, c'était la cause de mortalité la plus importante. Entre 18 et 50 ans, le nombre de filles qui mouraient en pleine jeunesse parce que ça s'était mal passé. Il faut savoir ce que c'était qu'un avortement. C'est pas drôle, un avortement. Ici, par exemple, sur la table, on a fait des avortements. On a appris, les médecins nous ont appris à faire des avortements. Aujourd'hui, on a la possibilité de réguler la natalité, mais c'est probablement la plus grande invention du XXe siècle. Thérèse Claire et Rebecca Manzoni.
Jusqu'à 11h sur France Inter.
Vous êtes bien? Vous voulez un coussin dans le dos?
Oh, ça va là.
Regardez comme vous allez bien.
Super. Ça fait combien de temps que vous...
40 ans. Ah oui, je suis comme les moules. Moi, quand j'ai un rocher, je m'y accroche.
Ah oui, ça fait 40 ans que vous êtes à Montreuil.
40 ans que je suis là, oui. 40 ans que je suis à Montreuil en même temps. Je suis arrivée, j'étais déjà une femme faite et bien faite.
Ça veut dire quoi, j'étais déjà une femme faite et bien faite?
Ben, vous savez, quand on dit c'est pas une jeune fille, c'est une femme faite. On a l'impression que... Alors j'étais une femme plus que faite. Bien faite, non, ça commençait à se dégrader, 46 ans. Mais j'avais fait mai 68, donc j'avais divorcé. Là, je commençais à être une vraie femme. Quand j'étais jeune, mon père me disait « Ah, tu sais, ma fille, il faut qu'une femme ait un enfant pour être une vraie femme. » Donc j'ai eu des enfants, j'ai eu quatre fois une vraie femme. Mais moi, j'ai eu mai 68, donc je ne crois après. Il y avait un avant, où j'étais une jeune femme en tailleur Chanel et en escarpins cousus à la main, chic et classe. Et puis il y a eu un après, où je me suis habillée dans des robes Woodstock, des robes longues en coton, j'adorais, mes cheveux dans le dos, au lieu d'avoir un chignon sévère. Et j'ai aussi défait mon chignon à l'intérieur. Et d'un seul coup, je suis devenue une femme non faite. Je suis redevenue une vraie femme, une femme qui s'offrait son destin et son indépendance. Et ça, il n'y a rien de plus beau dans la vie d'un être humain que d'accéder à la liberté qu'il s'offre.
Mais pour vous, mai 68, c'était ça?
C'était... Ah, mai 68, ça a été extraordinaire. On a l'impression que les écluses de l'histoire s'ouvraient et il y a eu un flot de paroles. On parlait de nos culs, ben je le dis, on parlait de nos ventres, on parlait de nos corps. Mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux. C'était le grand slogan et la grande idée qui courait partout. Donc, d'un seul coup, nos corps se sont ouverts et on s'est mis, je vous dis, à parler. Tous ces jeunes hommes qui avaient 20 ans, je me disais, oh, à 20 ans, ils disent tout ce que je pense depuis si longtemps et que j'ose pas dire.
Parce que vous, vous en aviez 40.
Moi, j'en avais 42 à l'époque. J'étais presque une vieille. J'avais mes filles adolescentes, mes fils aussi d'ailleurs, mais moi, j'étais une vieille. Et alors, tous ces mômes de 20 ans, et qui étaient beaux, Patrick Vivre était d'une beauté, il l'est toujours d'ailleurs, mais... ils étaient beaux, intelligents, ils parlaient bien, mais je me disais, qu'est-ce que c'est que ces mômes? Qui est-ce qui les a formés? Quelles sont les mères qui les ont élevés comme ça? C'était un champ de liberté si beau que moi, ça a ouvert mes petites ailes. Et puis je n'ai jamais refermé mes petites ailes. Je suis un peu fatiguée, mes petites ailes, en ce moment. Mais mes petites ailes, elles ont poussé à l'infini. Et ça m'a donné une telle force... une telle puissance, un tel allant, une telle énergie, qui ne m'a pas quitté depuis. Donc voilà à peu près ma transformation, ma métamorphose. Et d'une femme bien sage, qui faisait encore des confitures et des cornichons, faisait encore ça dans mon temps, qui avait ses 4 enfants, dont je ne me suis jamais lassée. J'ai été vraiment... les enfants m'ont comblée. Autant le mariage m'a semblé vraiment quelque chose de médiocre et d'enfermant, autant les enfants m'ont vraiment contentée. Aujourd'hui, j'ai des vieux enfants. Je n'ai pas des jeunes enfants, puisque je suis une très vieille dame. J'ai des enfants. Mon fils aîné aura 64 ans cette année. Donc, d'un seul coup, je lui dis, tu vois, mon chéri, on partage la carte senior tous les deux. Il m'a dit, oh, Thérèse, d'un air absolument outré, parce qu'il est encore un assez beau garçon, assez joli garçon, mais finalement, à 64 ans, il commence à avoir probablement des ratés au moteur.
C'est comme ça que vous dites, vous.
Ah, oui. Je ne dis pas une sexualité hésitante, ça c'est le beau langage, mais des ratés au moteur. Bon, alors il m'a dit, oh Thérèse, mais j'ai dit, oui mon chéri, il faudra t'y habituer. La vieillesse est aussi une habitude, une charmante habitude auquel tu n'échapperas pas si tu vis longtemps.
Une charmante
habitude. La vieillesse, ça peut être aussi une habitude. Moi j'ai voulu en faire une très très belle période. La vieillesse n'est pas une pathologie. La vieillesse est un très bel âge de la vie. Et je pense que c'est l'âge de la grande liberté. On peut tout dire parce que les gens se disent « Oh bah la vieille, elle est un peu déjantée, elle nous dit des conneries. »
où la vieille, c'est une icône, elle transmet. Alors je les laisse dans l'incertitude, parce que je peux être les deux, effectivement. Mais je pense que la plus belle vertu des vieux, c'est l'authenticité. Ne plus rien à cacher, ce qu'on a à montrer n'est pas véritablement de l'extrême beauté qu'on a connue à 20 ans ou à 30 ans. Mais on peut dire beaucoup de choses. Et le mouvement des femmes m'a appris à dire beaucoup de choses sur le corps, sur l'émotion, le corps. Ce qui caractérise ce rapport des hommes et des femmes, c'est que comme les hommes se sont gardés tout ce qui était la technique, la rigueur, parce que ça rapporte du fric, et que nous, on était à la maison, sois belle et tais-toi, on a eu quand même le temps de rêver, de penser, et le rêve est quand même la vérité du lendemain. Le rêve, si, mais c'est un matériau pour moi, c'est un matériau politique, le rêve. Mais le mariage pour moi a toujours été d'un ennui profond, d'un enfermement terrible, et j'avais l'impression d'être enfermée de toutes parts.
Pourquoi c'était un enfermement pour vous, le mariage spécifiquement ?
Parce que d'abord, quand on a 4 enfants, on sort pas beaucoup. Le temps que je divorce en 68, j'ai allé très peu au cinéma, jamais au théâtre, jamais au concert. Donc heureusement, il y avait la radio. Je n'ai pas eu j'ai pas voulu la télé à cause des enfants.
Elle s'appelle Thérèse Claire et elle est dans Éclectique jusqu'à 11h.
Donc.
Mais la radio, ça comptait.
Ah oui, la musique, moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. J'avais 4 ans, 5 ans, et j'ai vu mon grand-père arriver avec une belle boîte avec un ruban, donc tout de suite très intéressé. Je me suis dit, c'est peut-être pour moi. Et ben non, c'était pour ma mère, et je vois mon grand-père l'embrasser en lui disant « Bon anniversaire, ma fille !» Et je me souviens, elle a dénoué lentement le ruban, j'étais haletante, avide, je me suis dit « Mon Dieu, qu'est-ce que cache cette boîte ?» Et elle a ouvert le carton, elle a sorti une jolie boîte en bois avec comme une petite fenêtre avec un rideau rose derrière. Et mon grand-père a mis la prise de courant, a tourné le bouton et la musique est arrivée. Oh, je me souviens, j'en ai encore la chair de poule d'émotion, de ravissement de voir la musique m'arriver. Et cette musique, elle m'est toujours rentrée dans la peau depuis 80 ans. Et ça vous arrondit le cœur quand il y a un peu des heures, que ça va pas très bien, qu'on a un peu la larme à l'œil. Mais la musique, c'était si beau. Alors ça, c'est un de mes très très beaux souvenirs d'enfance. Et la musique, alors 10 ans après, j'ai 14 ans, 15 ans, il fait froid, on est dans l'hiver 42, qui a été un hiver absolument terrible. Il y avait la guerre, les Allemands étaient dans la rue. Et je me souviens que ma mère était assez bonne pianiste, elle avait fait 10 ans de piano, moi je commençais. Et je me souviens qu'on s'installait toutes les deux épaule contre épaule pour faire du quatre mains, on jouait la marche militaire de Schubert. Et ce pauvre Schubert, on l'écorchait effectivement, on ne lui rendait pas très service. Mais je me souviens de ce bonheur, de la chaleur de nos deux corps l'une à côté de l'autre, et on riait comme des folles, et on s'embrassait. Les fausses notes, on s'embrassait, on se pardonnait l'une l'autre. De casser ce pauvre Schubert qui est pourtant un de mes compositeurs préférés. Donc c'était mon deuxième souvenir musical, mais la musique m'a accompagné toute ma vie. J'avoue que j'ai une tare parce que je suis perdue, fondue dans la musique classique que je connais très très bien. Grâce d'ailleurs à la radio, je les ai remerciés un jour, j'ai remercié France Musique en disant qu'il m'avait fait ma culture musicale. Mais je ne suis pas très ouverte aux musiques des jeunes aujourd'hui. Je devrais être, des fois, je me dis... Mais j'ai peu de temps à vivre, alors je me dis autant me faire plaisir plutôt d'être dans le volontariat, d'acquérir d'autres connaissances et d'autres émotions. Je me dis, bof... Vous savez, quand on est très vieux, il y a un long, long passé derrière vous. Mais quoi faire du passé ? Il y a un très, très court avenir. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça, c'est une très bonne question. Mais le présent a pris toute sa plénitude parce qu'on connaît le prix des choses. Et justement, on aime les valeurs qui n'ont pas de prix. Je dis que c'est un moment parfait, la vieillesse. Cette vieillesse caressée, voulue, aimée, ornée. Ce qui veut dire que...
C'était quoi les moments parfaits ?
Où sa capacité de bonheur ne peut pas être plus remplie. Où c'est les moments de l'absolu, où d'un seul coup, oui, on en reste muet de perfection. Par exemple, après le garçon, j'ai eu une fille. Et je l'ai eu à 3 heures du matin, on est très moulu dans ce temps-là, on était très moulu. Les accouchements duraient longtemps, c'était dur. Et donc, 3 heures du matin, le temps de faire les toilettes. Enfin, je devais m'endormir vers 4h, 4h30, avec mon bébé à côté. Et de temps en temps, j'émergeais en me disant « Ah, j'ai une petite fille ». Et c'était un moment parfait. C'était la plénitude, c'était... Mon sac à bonheur ne pouvait pas être plus plein, voyez-vous. Et je voudrais écrire, le peu de temps qui me reste à vivre, je voudrais écrire les moments parfaits de mon existence. Et ce qui est très curieux, à la fin d'une vie, c'est que ce ne sont pas les grandes dates. Vous voyez, le mariage, les baptêmes, qui sont sous le signe du sacré, de la famille, des cadeaux. Mais des fois, on se souvient de choses infimes. C'est très, très curieux, la mémoire. Quelquefois, il y a des choses presque irracontables, indicibles, parce que c'est fugitif, c'est une impression. Il y a eu des nuits folles, il y a eu... Mais ça, c'était beaucoup après le mariage. Le mariage enterre aussi cette espèce de moment prime sautier où... Le premier saut, oui, prime sautier, on peut retrouver l'étymologie... Le premier saut, la première émotion, peut-être de l'inconnu, je ne sais pas. Mais des fois, je me dis, ah oui, ça avait été un moment si magnifique. quand il y avait les copines qui étaient là, on se passait les cheveux haut et nez, on s'enfilait des belles robes, et on racontait bien sûr des grosses choses. On disait des gros mots, parce qu'on avait été dans l'ensemble des femmes bien élevées, donc les gros mots étaient interdits dans l'éducation.
C'est quoi un gros mot ?
Eh bien, on parlait de son cul, on disait « Ah putain !» On jurait « Mais nom de Dieu !» alors que c'était absolument presque un péché. Et alors, on émaillait nos récits comme ça. « Il me fait chier, tu comprends ? Il m'emmerde !» petit à petit, on s'est aperçu qu'on parlait encore beaucoup des hommes. Parce que je m'aperçois, on a beaucoup, beaucoup, en allant dans l'âge et dans le grand âge, que les femmes, ce dont elles souffrent, c'est du syndrome de la paire de couilles qui leur bouche les yeux et les oreilles. Et elles sont toutes remplies, l'enjeu pour elles, c'est l'homme. Et le jour où elles sont guéries du syndrome de la paire de couilles dans la tête, elles commencent à émerger à leur propre identité. Et ce jour-là est aussi un moment parfait.
On se le boit, ce coup de rouge ?
Oh, t'as quelle bonne idée. Tu veux du rouge, du blanc ?
Du rouge, ouais.
Du rouge, ma petite chérie. Allez.
Là-dessus, j'ai proposé à Thérèse Claire qu'on écoute de la musique, une chanson chantée et écrite par Colette Renard en 1963. Thérèse a dit « Oh oui !» Cette chanson s'intitule « Les nuits d'une demoiselle ». Au verso de certains 45 tours, il était précisé « version épurée ». Celle-là ne l'est pas, enfin je crois.
Vas-y.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais froyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, pâte, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Et puis alors, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Ah oui, ça faut passer ça. Oui, mais c'est aussi ce qui nous reste. Nous, on est les nouvelles célibataires, on est les vieilles. Il faut savoir qu'à 80 ans, il y a 7 fois plus de femmes que d'hommes parce que les hommes, ils meurent. On les a fatigués, probablement. Ils meurent avant nous. Et bien entendu, tout ce qu'elle dit, Colette Renard, bah oui, on le fait. On le fait encore avec grand plaisir parce que l'orgasme est toujours au bout du chemin. Enfin, tant mieux. Ce qui n'était pas toujours le cas avec les hommes, d'ailleurs. Tandis que maintenant... Alors, on a connu, bien entendu, toute la période lesbienne en 68, à 70. Et là, c'était une pratique politique. On refusait l'homme jusque dans l'intime, parce que comme ça, il pouvait se l'accrocher. Et puis, effectivement, nous qui n'avions connu que la relation hétéro, on a trouvé que la relation homo n'était pas si dégueulasse. Et on s'y est très, très bien habitué. Ce qui fait qu'après, on a continué, on est devenu multicarte, si je puis dire. Pourquoi ne garder qu'une seule pratique quand on peut en avoir de multiples?
Donc, en fait, il y a eu ce divorce... grâce à 68, et puis après, la libération sexuelle, comme on dit, vous l'avez vraiment vécue, vous en avez vraiment profité.
La libération sexuelle, j'ai osé la vivre parce que là, j'ai retrouvé d'autres femmes, beaucoup d'un monde catholique et surtout protestant. Les protestantes étaient beaucoup plus libres que nous. Il faut dire que les protestants se sont donné la liberté de la lecture des textes. Et ça, c'est très, très important. Et ça nous a donné la liberté de lecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et ça n'a l'air de rien, mais on a recherché les féministes dans l'Ancien Testament. Il y avait avec nous les femmes juives aussi. On était toutes des femmes libérées qui se libéraient et qui pouvaient se référer à des mêmes textes. Ça, c'était très, très important. C'est pour ça que quand elles me disent « je suis musulmane, je suis catholique, je suis juive », je leur dis « on est des femmes ». Et alors quand on est ensemble, je leur dis « on a tout un clito, c'est de ça qu'il faut se souvenir ». Alors tout le monde rigole, parce qu'il y en a qui rigolent d'abord un petit peu coincés, en se disant « la vieille, elle exagère ». Et puis finalement, je vois à la maison des femmes, là, l'autre jour, de temps en temps, je leur explique comment est-ce qu'une femme se libère. On riait comme des folles. Et le rire, on dit que c'est le propre de l'homme, mais je pense que c'est la libération de la femme.
Carrément.
Ah oui, carrément. Ça, de plus en plus, je pense ça. Bon, ce qu'il faut combattre, c'est le système, c'est pas les hommes. Moi, j'ai plein de copains, autant que j'en veux, encore à mon âge, pas de copains sexuels, hein, ça c'est un peu fini. Parce qu'évidemment, ils aiment mieux la donzelle. Les vieux barbons, ils aiment le tendron, bien sûr. Mais moi, j'ai bien été amoureuse à 76 ans d'une femme qui avait 50 ans. Elle avait 26 ans de moins que moi. Donc maintenant, j'ai un œil un peu apitoyé et bienveillant sur tous ces vieux qui cavalent après les jeunes. On est extrêmement bienveillant, vieillissant. On se dit bof, bof. Alors effectivement, je juge moins dur.
J'aimerais revenir sur cette idée de liberté liée à l'âge. Parce que c'est pas du tout l'idée qu'on se fait de la vieillesse, la liberté, notamment par rapport au corps, par rapport à la beauté qui s'en va.
C'est vrai, mais je crois qu'il faut quitter ces références. En vieillissant, il faut accueillir le plaisir et le bonheur comme il vient, et pas se référer, quand j'entends les femmes, je lui dis d'ailleurs moi aussi, ah, si tu m'avais connue à 20 ans ou 30 ans, j'ai plus du tout l'image que j'avais à 20 ans ou 30 ans. Mais je dis toujours, j'ai ce slogan, quand on est vieux, on fait ce qu'on peut,
avec ce qu'on a. Alors nous les femmes, on est quand même un peu gâtées dans la vieillesse. La vieillesse n'est pas bénéfique aux hommes, n'est pas bienveillante aux hommes. Et puis la sacro-sainte virilité. C'est que la sacro-sainte virilité dans la vieillesse, mon Dieu, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a effectivement des ratés au moteur, ça c'est vrai. Il y a le Viagra, c'est vrai. Mais... Alors, j'ai un copain qui est épatant parce qu'il m'a dit « Ah oui, bien sûr, tu sais, j'ai été opéré de la prostate, je ne bande plus, mais avec ma bouche et mes mains, je peux faire des merveilles, je peux accomplir des miracles. » Alors, ce miraculeux bonhomme, je l'ai embrassé parce que ça m'a ému, mais il est évident qu'ils n'ont plus cette fierté du corps où ils ont joué à une femme. Les femmes, elles peuvent toujours faire l'amour. Elles ont effectivement, la pénétration pour elles est toujours possible, pensable, souhaitable. Mais pour les hommes, les instruments ne sont plus à la mesure de leurs prétentions, si je puis dire. On n'en parle pas souvent, ça fait partie des sujets tabous, mais il y a des vieux couples qui se haïssent. Et on a l'impression que la femme, là, ramasse les billes qu'elle n'a pas pu faire rouler dans sa jeunesse. Et ce pauvre malheureux, elle le traite vraiment comme un sous-développé. Ah, il y a des femmes dans le vieil âge qui ont 40 ans de ménage, 50 ans de ménage, qui sont épouvantables avec leur bonheur.
Vous avez eu une éducation catholique.
Absolument.
Très stricte, mais quand vous étiez mariée aussi, vous fréquentiez une paroisse.
Alors attendez, ça c'est une grande histoire. J'ai été élevée effectivement dans un catholicisme étroit, dogmatique, avec plein de belles cérémonies que j'aimais assez. Il y a des musiques religieuses d'ailleurs qui sont absolument exaltantes. Mais quand je me suis mariée, j'ai changé de crémerie, j'ai changé de paroisse, c'est le cas de le dire. Et je suis rentrée chez les Fils de la Charité, dans une église tenue par les Fils de la Charité, qui étaient en même temps des prêtres ouvriers. Donc j'ai appris Marx à l'église. Je suis devenue une femme de gauche à l'église, ce qui est assez rare. Et j'avoue que l'évangile d'une main et le capital de l'autre, ça peut faire assez bon ménage. Vous savez, quand vous, par exemple, en ce moment, il y a d'énormes manifs pour le mariage pour tous, je m'excuse, mais dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas une virgule sur la sexualité, pas l'ombre d'une virgule. Vous trouvez sur l'amour, mais l'amour, c'est une définition extrêmement vaste.
Et alors, précisément, qu'est-ce que vous pensez du vote de la loi du mariage pour tous ?
Mais je suis pour à deux mains, à deux pieds, à tout mon corps. La loi, elle est faite pour tous. La démocratie, c'est l'égalité devant la loi. Et je vois pas, alors tout le monde a l'air de dire on se marie pour avoir des enfants, mais qu'est-ce que c'est que cette aberration ?
Et pour terminer par rapport à l'Église et à la connaissance des prêtres ouvriers, qui tout ça étant venu après 68, la libération sexuelle, tout ça, vous avez aimé des prêtres, vous ?
Oh oui, j'ai même failli refaire ma vie. Est-ce qu'une vie ça se refait ? Mais j'ai même failli refaire ma vie avec un prêtre. Mais parce que c'était assez fascinant, ces hommes de Dieu.
Fascinant.
C'est fascinant parce que ces hommes qui n'ont pas touché aux femmes, disent-ils, parce que là aussi il faut découvrir l'église des couloirs et des alcôves, c'est tout à fait fascinant. C'est des hommes, ma foi, ce ne sont que des hommes. Mais l'homme de Dieu qui avait été appelé, il y avait toute une littérature, tout un symbolisme à l'époque. Donc, on avait toujours goûté à Monsieur Tout-le-Monde, qui était d'une trivialité un peu décevante. Mais d'un seul coup, on trouvait l'homme de Dieu, qui souvent d'ailleurs était cultivé. Il faisait quand même à l'époque un peu d'études. Donc ces hommes-là vous semblaient intelligents. Ils nous semblaient porteurs d'autres choses. En fait, c'était des braves gens, des braves types, moitié du temps. Il y a eu beaucoup de divorces, d'ailleurs, ça, on ne parle pas de tous ces prêtres qui se sont mariés après ou qui se sont mis en ménage. Il y a eu énormément de déconvenues, parce qu'eux aussi, ils avaient forgé la femme à travers la Sainte Vierge, ma foi, et des fantasmes qui n'existaient pas dans le réel. On refuse le réel, donc c'est très difficile de faire une vie authentique. Le réel, c'est la vie authentique, mais en même temps avec le rêve. Le rêve qui vous apporte espérance et qui vous fait bouger. Si on regarde le réel, par exemple, je vois ça dans les EHPAD, les maisons de retraite médicalisées. Là, on est vraiment dans un réel qui sent le pipi. Mais ces gens-là ne sont plus appelés au rêve, nulle part. On ne les stimule plus dans le rêve. Donc, ils sont dans une réalité effrayante. Et ça, c'est ce que j'ai voulu éviter pour la maison des Baba Yaga.
La maison des Baba Yaga est un endroit pour les vieilles femmes que Thérèse Claire a rêvé en 1995 et qui vient d'être inaugurée à Montreuil, 18 ans plus tard, il y a donc 3 mois, là, en février dernier. La maison des Baba Yaga est un endroit où ne vivent que des femmes, ouvert sur la ville et à toutes les générations. C'est un lieu autogéré.
J'ai voulu changer le regard de la société, on est en train, le regard de la société sur les vieux, le regard des vieux sur eux-mêmes. Il faut que les vieux se tiennent, se lavent, se parfument, s'habillent, sortent, s'intéressent et vivent en collectif. Ça, faut vivre du collectif, mais peut-être pour autre chose que jouer à la belote et au Scrabble.
Quand vous dites, c'est le refus du réel d'ailleurs, vous vous dites vieux, mais c'est un mot qu'on utilise. Qu'on n'utilise plus. On dit senior.
Oh, la pacotille. Mon Dieu, que les gens aiment maquiller les mots. Maquiller les mots, c'est maquiller la pensée. C'est les mots qui véhiculent la pensée.
Ben, merci beaucoup. Hein.
Bien.
Pour tout ce temps accordé, c'est précieux.
Non, j'aime bien parler. J'adore parler. J'ai que ça.
Comment ça, vous avez que ça ?
Bah, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme, je n'ai que la parole.
Vous avez toujours eu ce goût-là ?
J'aime parler, mais pas parler de n'importe quoi. J'aime parler, j'aime parler de ce qui transforme.
Dans la conversation aussi, il y a le plaisir de trouver le mot juste.
Le mot juste, ou le mot qui est un tout petit peu, qui n'a pas le même sens, dont on dévie le sens. J'adore ça. Pas le mot. Alors, j'aime le mot exact, mais le mot qui fait rêver, c'est le mot dont on dévie un peu le sens. On l'emploie différemment.
À quoi vous pensez ?
Je ne sais pas. Le langage poétique, finalement, dévie un peu le sens des mots. Et c'est comme ça qu'une pensée nouvelle arrive. Oui, ça ne me vient pas, là, sur le coup, mais... Quand on me dit « Vous avez été à l'école », je réponds « Non, mon école, ça a été l'eau qui coule et le vent qui passe ». Alors là, je dévie pas les mots, c'est vrai, mais en même temps, il y a une image derrière qui fait que mon école, elle est faite de sons, d'images, d'effluves, de fraîcheur, de... Ça fait une explosion, une gerbe de mots. Des mots qui paraissent un peu secs, mais si tu les dévies un peu, ça te fait une gerbe de mots, un bouquet de mots. Et ça te retombe sur le coin de la figure en autre chose. Et j'adore ça, tu vois. Et je m'aperçois que je tutoie facilement. Et ça, c'est un vieux réflexe militant. Et c'est beau, on se dit tu. Vous toi-même, disait. Il y avait déjà une des plus belles lettres d'amour que j'ai jamais lues. Napoléon, qui était en campagne d'Égypte et qui écrivait à Joséphine, et Joséphine lui envoyait des lettres un peu gourmées, un peu empoulées, un peu corsetées, où elle lui disait « vous », etc., etc. Et il lui répondait « vous toi-même ». Il était furieux, une lettre passionnée.
Pourquoi vous n'écrivez pas ?
Ah oui, c'est la question de tout le monde. Parce qu'il faut que je m'installe. Et puis j'ai l'impression, quand j'écris... autant la parole, il y a le rire, il y a le son de la parole, tu peux moduler. Mais l'écriture, si je m'y mets, j'écris un peu, j'écris pas trop mal, mais tu comprends, j'ai 4 rendez-vous par jour. Ou par exemple, la semaine prochaine, tu vois, je m'en vais à Angoulême, Saintes, Châteaubriand, La Rochelle, faire un débat tous les jours avec un film. Donc, écrire, c'est un peu difficile, tu vois. Et puis, j'aime bien ce qui laisse pas de souvenirs, tu vois. Enfin, ce qui laisse un souvenir qu'on peut encore... La parole, tu peux transformer. Le livre, il est là, la parole...
C'est trop gravé, le livre.
C'est gravé, le livre. J'aime ce qui est évoqué, je n'aime pas ce qui est affirmé. Parce que dans l'évocation, toi, tu peux rêver.
J'aime ce qui laisse la distance à l'autre pour son propre rêve. Mais le récit exact, les récits d'aventure exacts m'intéressent médiocrement. Non, j'aime la parole. Mais j'aime la parole qui fuse, qui prend du souffle, qui prend son envol, qui se termine autrement. Et qui ne se termine jamais.
Le dernier moment de cette émission, c'est une minute de solitude. C'est-à-dire que je vais vous laisser toute seule, avec le micro. Et vous dites ce que vous voulez. Ça dure une minute.
Ça va ?
Alors, je vous confie ça, le micro.
Voilà. Donc je sors et vous m'appelez quand c'est fini, quoi.
Ah bon, vous sortez vraiment ?
Pour de vrai.
La solitude, les vieux pleurent beaucoup la solitude, mais moi j'aime la solitude. C'est aussi un instant parfait où la pensée peut s'épanouir, où on peut rêver à tout, à rien. La solitude est nécessaire à l'évolution de la pensée, nécessaire à l'efflorescence de la pensée. Et avec la pensée naît l'utopie. Et plus je vais, plus je trouve que l'utopie est une corde de secours pour traverser les temps assez terribles que nous vivons et qui me rappelle, moi qui suis vieille, si étrangement, les années 37 et 38. Mon Dieu, faites que la suite ne soit pas identique. La solitude, c'est là où se bâtit la vie, le bonheur et l'amour. J'aime aussi le silence. Le silence, c'est ce qui fait chanter la musique. C'est ce qui fait s'exalter la musique. Les moments de silence sont des moments de respiration. C'est des moments du souffle. Et le souffle, c'est un mot, la ruah en hébreu. C'est justement ce qui vous emporte. À la veille de la mort, je suis dans le printemps éternel. J'ai dit le printemps, et c'est pourtant le temps éternel qui commence à naître et qui ne m'affole pas. La mort s'inscrit dans ma vie. J'ai bien vécu, je vais bien mourir.
Les Invisibles de Sébastien Lifshitz, dans lequel intervient Thérèse Claire, est disponible en DVD depuis cette semaine. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I live when I'm back where I began. Just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. So give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too. And in fact, I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I've found the one thing that's true. This common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Answers, questions, answers.
So many questions, but many less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began. Just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end.
Pour la bande originale d'Eclectique, Jean-Michel Montu, vous avez choisi Loudoyon, Questions, Answers. Le groupe Tomorrow's World, avec Pleurer et Chanter, et puis Colette Renard, pour Les Nuits d'une Demoiselle. Pierre Jabot a réalisé cette émission avec Anne Le Guéhennec, Éclectique, et préparée par Lola Costantini. L'émission est podcastable sur le site franceinter.fr et des infos sur le compte Twitter @RebeccaManzoni. Voilà pour le net. Et pour les ondes, ce sera Zazie la semaine prochaine, le comédien Jos Oben la semaine suivante et le musicien Bertrand Belin la semaine d'après. Mais on va déguster, c'est tout de suite, enfin dans une poignée de minutes après les infos, ce sera François-Régis Gaudry au micro. Il est temps pour moi de prendre congé. Bon dimanche et je vous embrasse même.